Philippe Muel, vous qui êtes sculpteur, vous avez 40 ans. Je me demande si, pour les artistes qui ont actuellement cet âge, une crise n'est pas en vue ou ne se manifeste pas déjà. Pour le savoir, je vous proposerai de nous reporter quelques années en arrière et de nous demander quelle a été l'évolution des artistes de pointe au cours des dernières années, et je me demande également où ils en sont actuellement de leur recherche. Pour définir où ils en sont de leur recherche, je crois qu'il faudrait considérer une recherche caractéristique, montrer ses conséquences, puis ensuite se poser la question de savoir dans quel état d'esprit se trouve l'homme qui a fait ses recherches. Vous êtes aujourd'hui l'exemple, et la recherche dont il s'agit, je vais en donner le nom tout de suite, en ce qui vous concerne, vous l'appelez le monochromateur. Alors, je voudrais donc savoir comment vous en êtes venu à construire cet appareil que vous appelez un monochromateur. Qu'est-ce qu'un monochromateur ? Et l'appareil, une fois construit, quelles sont les conséquences pour l'esprit d'un artiste de 40 ans en 1968 ?
Alors, je crois que vous parliez de crise, mais il faut peut-être commencer en parlant de la première crise. C'est une crise qui s'est produite, je pense, un peu après la guerre. Pendant la guerre, on a commencé, si vous voulez, à s'intéresser à l'art pendant la guerre, et on en connaissait très très peu de choses, pour des raisons, parce que la France était occupée et qu'on n'avait pas suffisamment évolué avant la guerre pour connaître ce qui se passait. Par exemple, le surréalisme, l'art abstrait, quand j'avais 18 ans, on en parlait comme d'une chose un peu bizarre, rarement, et on s'y intéressait pas du tout. On faisait à ce moment-là, je faisais de la sculpture, une sculpture tout à fait figurative. Puis ensuite, d'un seul coup, on a tout connu, enfin tout ce qui avait été fait. Ça a été très difficile parce qu'on avait, si vous voulez, acquis déjà une petite personnalité en faisant des choses figuratives, et tout d'un coup, tout le reste s'est présenté. Alors c'était un petit peu du délire. Puis alors, parallèlement, on a pris conscience tout de même du monde technique et scientifique qui prenait de plus en plus d'importance. Il ne s'agissait pas seulement d'utiliser la technique pour aller plus vite, mais pour obtenir d'autres formes qui étaient imposées par une technique. Et alors, j'ai suivi ce chemin-là pendant assez longtemps. Et alors, partant au début, si vous voulez, il s'agissait surtout de technique, et vers la fin, ça tendait plutôt vers la science.
Bon, alors vous en êtes venu à construire cet appareil que vous appelez...
Oui, ça s'appelle un monochromateur.
Un monochromateur. Alors, qu'est-ce qu'un monochromateur ? Car c'est lui qui est au centre de l'émission que nous faisons.
Je voulais d'abord dire une petite chose qui me paraît importante. C'est que mon frère m'a aidé à le faire, ce monochromateur. Et mon frère est scientifique, lui. C'est la première fois que j'ai travaillé avec un scientifique. Alors, ce que c'est qu'un monochromateur ? Eh bien, c'est un appareil qui décompose la lumière. Grossièrement, c'est un prisme. Alors, celui-là, évidemment, est un peu particulier parce que on l'utilise pour faire de la peinture sur pellicule. Alors on a une source lumineuse, ponctuelle, on décompose cette lumière, et ensuite on introduit un appareil à l'endroit où le spectre se forme, qui sépare les couleurs. Et il y a des petits trous, si vous voulez, qui laissent passer soit du bleu, soit du rouge, soit du vert. Alors cet appareil, on le manœuvre. Et alors ensuite, si par exemple on envoie un vert, un rouge et un bleu, il y a un second monochromateur qui recompose cette lumière pour donner une autre teinte. Bon, alors ça, c'est la première partie de l'appareil. On se trouve donc avec un rayon lumineux qui peut varier d'une façon infinie au point de vue couleur. Il y a un second appareil qui permet d'élargir à volonté ce rayon. C'est-à-dire que quand il arrivera sur la pellicule, ou bien il couvrira l'ensemble de la pellicule, ou bien il sera un point. Puis alors, il y a un troisième appareil qui est un miroir, simplement, monté sur une rotule, qui permet de donner un mouvement à ce rayon, qui balaie la pellicule. Alors, en somme, on se trouve à la tête d'un pinceau extrêmement perfectionné, dans la mesure où il peut changer immédiatement de couleur. Si c'est commandé par des électro-aimants, par exemple, changement de couleur, c'est extrêmement rapide. Il peut être aussi gros ou aussi petit qu'on veut, et il peut se déplacer entièrement sur la surface sensible, en fait sur la pellicule. Alors, la première constatation, c'est que c'est tellement perfectionné qu'on ne peut absolument pas le maîtriser. C'est complètement aléatoire. Il y a trois appareils à faire fonctionner en même temps. Eh bien, on fait n'importe quoi. Finalement, c'est amusant une fois ou deux, mais c'est sans intérêt. Alors, le second pas consiste, oui, parce que c'est parfait, à automatiser complètement l'appareil. D'avoir les trois éléments dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la couleur, le mouvement et la dimension de la tâche, d'arriver à les faire fonctionner par un système mécanique ou électrique, et ensuite d'intervenir sur ces trois systèmes. Alors ça permet de faire un programme pour le...
Autrement dit, on lit...
De relier les trois, c'est ça, de relier les trois.
De lier cet ensemble de trois appareils qui constituent un appareil, de lier cet ensemble, disons, à un ordinateur, d'établir un programme, après quoi, lorsque l'on met en route, on obtient un nombre d'images absolument illimité.
C'est ça.
Et le programme établi, on peut le modifier bien entendu, mais le programme établi, on peut avoir un nombre quasi infini d'images, on n'a plus à s'en préoccuper, la démarche est achevée, on a envie de dire que dans une certaine mesure, on a été au bout de la non-figuration. Est-ce que vous acceptez cette formulation?
Oui, mais attendez, il y a tout de même autre chose. C'est qu'il ne s'agit pas de faire marcher l'appareil, il s'agit de créer le programme. Tout le problème est là. Alors pour créer un programme, il faut trouver une image déjà. On pourrait, après, ayant une grande expérience d'une certaine quantité d'images, trouver un programme d'une façon tout à fait abstraite, quoi. Enfin, sans passer par une image. Mais je crois qu'au début, il faut, d'ailleurs j'en ai déjà un bon nombre d'images, il faut choisir, on pourrait presque appeler ça un style. Puis, à ce moment-là, mettre en route que ça tourne, si vous voulez, d'une façon quelconque. Puis observer les résultats, premier enchaînement. Puis en tirer des enseignements, et ainsi de suite. Alors donc, on peut créer un certain nombre de styles qui auront tous une infinité de solutions.
Je crois que le monochromateur créé, il y a trois points à examiner. Vos rapports avec le consommateur d'art, celui à qui on vendra un appareil, celui qui le fera marcher, celui qui obtiendra des images. Ça, c'est un point. Ensuite, il y a vos rapports avec les hommes, avec l'homme de science ou les hommes de science qui auront travaillé avec vous ou qui sont destinés à travailler avec vous. Ça, c'est un second point. Et puis, il y a encore un point, c'est vos rapports avec la machine que vous avez créée. Et puis, la conclusion de tout ça, c'est vos rapports avec vous-même qui permettent peut-être de savoir sur quoi déboucherait la recherche à venir.
Au fond, on n'a pas pu encore donner l'occasion au consommateur de servir d'un appareil. Je crois qu'à ce moment-là, si vous voulez, ça prendrait une allure de gadget pour le consommateur. Non, je crois que les gens ne sont absolument pas prêts à ça. Alors, leur offrir des séries en très grande quantité, ça les heurte aussi, parce que par définition, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur, je parle sur un plan pécuniaire.
Simplement, peut-être renoncerons-nous à une idée qui était que beauté et rareté sont associées, et peut-être renoncerons-nous à un marché qui, au fond, jusqu'à présent,
a été organisé
au bénéfice d'une certaine chaîne commerciale et au bénéfice d'un certain type de consommateur. Ça ne serait pas dramatique si on voyait un effondrement dans ce domaine. Ça peut arriver. D'ailleurs, est-ce qu'il ne s'esquisse pas légèrement?
Oui, c'est possible. Alors,
un nouveau type de consommateur peut par conséquent naître, qui trouvera naturel qu'on lui confie un procédé de création et qui trouvera naturel de créer pour son propre compte en manipulant un appareil qu'on lui aura vendu. Au lieu d'acheter une œuvre d'art, il achètera un appareil, il manipulera cet appareil. L'idée me paraît fort admissible.
Oui, mais alors ce qui est un peu ennuyeux, c'est que, au fond, les progrès scientifiques et techniques sont tellement rapides et les progrès des consommateurs sont tellement lents que tout ce qu'on peut faire actuellement, on peut considérer que ça n'a qu'une valeur symbolique. C'est déprimant, oui, c'est déprimant, parce que tout de même, ce genre d'appareil est fait pour produire. Et puis s'il ne produit rien, c'est...
Moi, je trouve que c'est exaltant. Je ne trouve pas que ce soit déprimant. Je trouve qu'il est exaltant de penser que l'œuvre d'art, enfin, pourrait vraiment être mise à la portée de tous.
Oui, ça serait parfaitement
égal. Jouer à faire de l'art, pourquoi ne jouerions-nous pas à faire de l'art? Pourquoi avons-nous donné une telle importance sacrée à l'art? Mais pourquoi?
Oui, alors à ce moment-là, je crois qu'on pourrait passer au problème de l'artiste. Alors, qu'est-ce qui lui reste à cet artiste? Il a fait un travail de recherche. Alors justement, moi j'ai eu l'occasion de voir que la recherche artistique et la recherche scientifique, c'est pas tout à fait pareil, ça se ressemble énormément. Et il y a une assez grosse différence. Il y a des tas d'éléments qui font ce qu'elle est, la recherche. Et il faut rajouter, je pense, enfin il faut teinter ces éléments d'intelligence du côté de la science et de sensualité du côté de l'art. Et plus on avance dans ce sens de recherche artistique, plus on perd de sensualité et plus on est obligé de se servir d'intelligence. Et alors là, il y a quelque chose qui ne va plus très bien. L'artiste disparaît et devient un scientifique. Et un scientifique, à ce moment-là, qui a des bases très faibles, qui fait une science d'image qui est finalement assez misérable par rapport à ce que pourraient faire eux-mêmes les scientifiques si vous voulez s'en donner la peine. Alors évidemment, ils n'en ont pas envie. Ils en auraient bien envie, mais ils n'y pensent pas. Ils vont peut-être y penser, mais ils ont besoin qu'on les pousse un peu.
Ils vont sûrement y penser, ne serait-ce qu'au stade de la recherche fondamentale. Au stade de la recherche fondamentale, je me demande si justement l'art ne va pas passer entièrement, je suis de votre avis, entre les mains de l'homme de science.
D'ailleurs, moi j'ai une sensation d'infériorité très nette vis-à-vis des scientifiques, quand je vais simplement leur poser des questions, s'il m'arrive de travailler un peu avec eux. Enfin, et je vois vraiment pas très bien ce que je leur apporte, à part une espèce de... Un jeu auquel ils ne pensaient pas. Regardez, on pourrait imaginer...
Ah, mais tout est peut-être dans ce qu'ils ne pensaient pas. C'est l'autre aspect de la question.
D'accord, mais alors on ne peut plus parler à ce moment-là d'art. Enfin, s'il s'agit de leur faire penser à ça, c'est pas mon rôle.
Est-ce que ça n'est pas une pensée d'orgueil que vous avez là?
Non, parce que je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait du tout d'avoir perdu cette chose qui, au début, si vous voulez m'agacer, qui est cette sensualité, ce côté manuel... qui a maintenant complètement disparu. Regardez par exemple, pour faire ce genre de recherche, je suis obligé de bricoler beaucoup. Je déteste bricoler. Je n'y trouve aucun plaisir sensuel. Alors que je crois qu'un scientifique, lui, quand il est obligé de bricoler, ce qui se produit assez souvent, il y trouve probablement un plaisir sensuel, parce qu'au fond, il ne connaît pas grand-chose d'autre.
Mais alors, comment envisagez-vous votre avenir ?
On a vu maintenant tellement d'images provenant de la science qu'on a un peu oublié l'image de l'homme. Et je me demande si on ne pourrait pas repartir de là. Il me semble qu'il y a une science tout de même, c'est la psychanalyse. Et je me demande si elle ne contient pas d'une façon latente des quantités d'images qui pourraient être un domaine de recherche artistique, en les reliant à l'image de l'homme. Il y aura un rapport surréaliste. Je pense que c'est un domaine qui reste ouvert, ça.
Ce retour à une certaine image humaine... Dans une certaine mesure, ça va être un néo quelque chose. Est-ce que dans le passé, les néo quelque chose ont connu des fortunes brillantes? Il ne semble pas.
Mais ça dépend. On peut dire que c'est un néo maintenant, mais on n'a jamais dit qu'il y avait un néo quelque part quand on continuait à utiliser l'image de l'homme. Il se trouve qu'il y a très peu de temps qu'on n'utilise plus l'image de l'homme.
Non, mais nous paraissons vraiment en être séparés.
Peut-être trop, justement. Non, je vois pas pourquoi ça serait fatalement un retour en arrière.
Oui, mais je suis étonné du fait que, alors que vous avez pris contact avec les gens de science, de voir que les artistes que vous représentez, vous n'êtes pas le seul, s'écarteraient en quelque sorte du foisonnement possible des images pour retourner vers des images connues. Je suis très, très étonné de cette espèce de peur, peut-être.
C'est une peur, c'est-à-dire... Non, c'est pas exactement une peur, c'est qu'il y a tellement d'images éventuelles.
Alors, est-ce qu'il ne faut pas avoir la liberté... Le courage de laisser proliférer, de faire proliférer, de faire participer à la prolifération des images?
Oui, mais tout de même, je vois pas pourquoi ça serait... si vous voulez, s'il faut du personnel pour faire ce genre de travail, je vois pas pourquoi on le recruterait chez les artistes. C'était eux qui étaient tentés les premiers, parce qu'on a toujours envie d'images nouvelles.
Il me semble.
Mais on s'aperçoit... Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression, il me semble que... Je m'aperçois maintenant que je ne sers plus à grand-chose dans cette histoire. Je sers vraiment à rien que quelqu'un d'autre. Je vous dis qu'il y aurait pareil, qui serait intelligent, cultivé et ayant du goût, pourrait parfaitement remplir ce rôle.
Dans la suite de vos recherches, rien n'interdit de penser que vous n'allez pas prendre un nouveau type de contact avec l'homme de science en vue d'obtenir tel nouveau procédé de création que je suis bien incapable d'envisager.
Oui, mais attendez, il y a tout de même une chose assez curieuse, c'est qu'on s'aperçoit que toutes ces images ne sont pas tellement nouvelles, après tout. D'autres recherches de ce genre ont engendré des styles paraissant nouveaux, mais qu'on arrive presque à retrouver dans la nature, dans... Alors, justement, je trouve que c'était pas si mal, cette façon d'interpréter la forme de l'homme. C'est ce qui nous touche de plus près. Et puis, il faut bien avouer que pendant, depuis que l'art existe, des quantités d'images nouvelles sont sorties de là. Tandis que depuis que cet art, donc, enfin, qui utilise la science, existe, moi, j'ai pas vu d'images tellement nouvelles. Si je prends un bonhomme, que je le fais en terre glaise, je ne sais pas pourquoi, il me semble que je peux en tirer une image nouvelle, malgré le nombre infini de bons hommes en terre glaise qui ont été faits depuis toujours. Justement parce que je serais dans une meilleure situation, dans la situation peut-être qui doit être celle d'un artiste, c'est-à-dire que je pourrais à la fois créer avec mon imagination, avec mes mains, et dans le tout dans le même temps.
Autrement dit, vous supposez qu'il y aurait bien un domaine de l'art qui serait différent de celui de la science? J'ai envie de vous répondre que nous n'en sommes plus sûrs.
Oui, vous voulez dire que si on voulait prendre une image d'homme, qu'on la mette en route dans un ordinateur, on pourrait sortir toutes les éventualités d'images d'homme. Mais je ne sais pas si c'est vrai.
C'est beaucoup plus compliqué et... Nous ne sommes pas prêts encore à le faire. Mais j'ai envie de dire que c'est relativement proche.
Oui, mais alors je ne vois pas très bien où ça mène, ça. Parce que admettez qu'on dispose de l'appareillage nécessaire. Il offrira une telle quantité de solutions, parmi lesquelles il faudra choisir, qu'on n'aura jamais le temps de les regarder toutes, et puis qui choisira?
Mais l'image est en train d'entretenir des rapports dramatiques avec l'homme, c'est là la conclusion, me semble-t-il. Ou disons plutôt que les hommes se mettent à entretenir des rapports dramatiques avec les images. En faut-il faire de nouvelles? Pouvons-nous envisager d'en concevoir de nouvelles? Ou non? Et si nous ne pouvons pas?